Le bar des sciences.
Le bar des sciences.
Le bar des sciences.
Le bar des sciences.
Mais c'est quoi déjà le titre de la conférence ?
Mais c'est pas une conférence, c'est un bar des sciences.
Bonjour, tout de suite retrouvez le premier bar des sciences de la saison 2009-2010 intitulé « Sciences et musique ». Il s'est déroulé le mercredi 18 novembre dernier à 20h30, réalisé en visioconférence avec Nîmes et en partenariat avec Kawanga dans le cadre de la fête de la science. On retrouve tout de suite Thierry Brassac au baloir du bar des sciences.
On va vous présenter rapidement les intervenants qui sont ici ce soir. Alors, Philippe Lalitte travaille donc dans un laboratoire qui s'appelle le LEAD, Laboratoire d'études et d'apprentissage du développement. Donc il est maître de conférence à l'Université de Bourgogne. Il travaille aussi à la Cité de la Musique. Et il est musicologue et travaille plus particulièrement sur la perception de la musique. Et c'est lui qui va nous apporter toute la partie de qu'est-ce qui se passe un petit peu au milieu de nos neurones quand on écoute de la musique, au niveau des émotions, au niveau de la perception, etc. Nous avons ensuite Makis Solomos, qui est juste à côté, donc qui est maître de conférence à l'Université Montpellier 3 en musique contemporaine. Professeur, oui, je suis désolé. Donc grâce et suite à une conférence que Makis nous avait donnée l'année dernière dans le cadre des Jeudis de l'Université sur la musique contemporaine, qu'on a eu l'idée de réfléchir à ce bar des sciences et qu'on a mis ça en place. Donc il va aussi au passage pouvoir nous faire une petite mise en bouche avec des extraits et des écoutes sonores en fait. Ensuite Thomas Delaunay, donc qui est un acousticien qui travaille avec notre collègue de Nîmes en fait là-bas. Thomas Delaunay, il travaille à l'Université Montpellier 2 dans l'acoustique et l'environnement sonore et la propagation des sons en général. Donc tout un tas d'applications, que ce soit pour réduire justement les nuisances ou au contraire faire en sorte que nos oreilles reçoivent des choses agréables à écouter. Et ensuite, nous avons Frédéric Genier, qui est enseignant-chercheur physicien, musicien accessoirement, et qui a tout, voilà, justement l'aspect un petit peu de la physique du son et qui a enseigné pas mal de choses là-dessus et qui pourra nous en parler globalement. Voilà. Donc voilà, Makis va nous faire un petit peu une présentation générale, agrémentée de diffusion d'extraits sonores en fait, pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance. Et après, entre Nîmes et Montpellier, on va discuter un petit peu ensemble et réagir à ce qui nous aura fait entendre.
Bonsoir. Je constate tout d'abord que la disposition, du moins à Montpellier, fait que nous avons l'hémisphère droit ici, les musicologues et les scientifiques. Donc c'est très mal parti, c'est peut-être volontaire. Mais je vais ajouter tout de suite que la petite discussion préliminaire que nous avons eue pour nous mettre d'accord sur ce qu'on ferait me fait dire que les musicologues vont défendre la science et les scientifiques vont défendre la musique. Alors Thierry m'a demandé de faire une petite introduction, donc je ferai une introduction petite, une petite dizaine de minutes, quelques paroles sur le thème et trois petits extraits de musique, et plus tard, si on a le temps, un extrait plus conséquent. Je précise que je ne suis pas spécialiste de la question, donc des relations science-musique. Je suis spécialiste de musique contemporaine, et notamment de la musique de Yannis Xenakis, lequel a utilisé beaucoup de mathématiques et de physique, donc j'ai un peu touché au thème. Mais sans doute un spécialiste y amènerait des propos plus pointus, plus intéressants. On peut partir de la constatation que la relation science-musique, qui semble problématique aujourd'hui, ne l'était pas dans un passé pas si lointain que ça, c'est-à-dire la Grèce antique. Je pense que tout le monde a entendu parler de Pythagore, des pythagoriciens, du bonocore de pythagoriciens, de l'invention des mathématiques par la musique. Nous avons un certain nombre de documents que l'on appelle les textes des pythagoriciens, que vous pouvez trouver dans une édition de poche en langue française, qui ne sont pas du maître de Pythagore. Pythagore, on n'a rien conservé, il n'écrivait pas à l'époque, mais nous avons des écrits de Philolaos, d'Archytas, et d'autres disciples du grand maître que fut Pythagore, du maître acousticien et acousmaticien, comme il aimait se nommer. Ces gens-là avaient une sorte de religion, on pourrait dire. C'était une religion à l'époque, la religion, la philosophie, la pensée, ce n'était pas séparé. Donc religion dans un sens large, c'est-à-dire c'était des gens qui pensaient. Et ils prenaient un certain nombre de sujets d'études centraux pour la société. Et la musique était centrale à l'époque. Elle était le contraire un peu de ce qu'elle est aujourd'hui. elle n'était pas considérée comme un divertissement, mais elle était considérée comme quelque chose de fondateur, avec une vertu éthique, morale très puissante. Donc ils avaient pris entre autres comme objet d'étude la musique, et puis ils se livraient à des expériences basiques aujourd'hui, mais pas si basiques que ça, même pour certains, à savoir prendre une corde, la tendre, lui mettre une caisse de résonance pour que ça sonne, et produire donc ce qu'on appelait le monocorde. Monocorde. Alors, le monocorde ne leur servait pas pour faire de la musique. Ça serait une musique relativement pauvre. Ceci dit, il y a des instruments à une corde, hein, et on peut faire des choses intéressantes. Mais avec ce monocorde, il s'évertuait à calculer les intervalles musicaux. Petite parenthèse pour les non-musiciens. Un intervalle musical, c'est vous prenez deux notes, do, ré, et vous mesurez ce qu'on peut appeler une distance. En termes musicaux, ce n'est pas une distance, puisque ce n'est pas dans l'espace, mais les pythagoriciens, justement, ont fait cette jolie métaphore de mesurer. Donc c'est devenu une distance, puisqu'ils ont mesuré, avec leur unité de mesure à l'époque, la distance sur la corde. Et donc ils se sont aperçus de choses basiques, que tout guitariste a constaté dès le début, que si vous posez le doigt exactement au milieu de la corde, donc si vous la divisez par deux, ça vous donne ce que les musiciens appellent une octave, qui est l'intervalle fondateur pour beaucoup de cultures, dont les pythagoriciens, dans la Grèce antique. Si vous la divisez par deux, vous obtenez un intervalle par trois, etc. Et ils continuaient, ils ont calculé, donc les pythagoriciens ont été assez loin, et ils ont livré un amas de calculs incroyables, donc arrivant à des divisions minimes, le comma pythagoricien 981 sur... les collègues acousticiens se rappelleront peut-être du chiffre, enfin... 9, voilà, 23 cents, mais du genre 961 sur 867. Voilà, des calculs complètement déments. Et il faut rappeler qu'ils n'avaient pas de chiffres à l'époque, hein, puisque les chiffres, on dit les chiffres arabes, sont venus avec les arabes. Donc tout ça, c'était écrit en toutes lettres, 981, etc., pour expliquer la difficulté. Voilà, cette culture-là était vraiment extrêmement importante dans l'Antiquité grecque. Par exemple, un auteur comme Platon, dans la République, la musique est centrale. Dans sa cité idéale, puisque c'était une valeur centrale. Et donc, dans l'éducation, il prévoyait que la musique soit le point d'aboutissement avec l'astronomie de toute l'éducation. Je cite, pour conclure sur les Grecs, un très beau texte de Philolaos qui nous dit que l'arithmétique et la musique sont des sciences sœurs. Extrêmement joli. C'est pourquoi on a pu dire que les pythagoriciens ont inventé les mathématiques à partir de la musique, qui est une position un peu extrême, mais que beaucoup de gens ont défendue à leur manière. Alors, cette tradition-là a perduré en Occident dans le Moyen-Âge. Elle a perduré, à savoir que dans la pratique, les musiciens n'avaient plus rien de gens qui faisaient aussi de l'astronomie. Mais dans l'imaginaire social, politique et autres, la musique était dans le fameux quaturium, elle était placée du côté des sciences et non pas du côté de la rhétorique ou ce qu'on appelle, on appellera après les lettres. Cette tradition perdure encore un peu plus loin, vers le XVIe, XVIIe siècle. Par exemple, un philosophe comme Leibniz dira que la musique est un calcul inconscient. Inconscient à prendre au sens non pas de la psychanalyse, mais... qui a un calcul sous-jacent à toute musique, et que le musicien, finalement, ce n'est qu'un mathématicien. Ces traditions donc perdurent assez longuement, mais elles commencent dès le XVIe, XVIIe siècle à être battues en brèche par une nouvelle tradition d'une fraîcheur extraordinaire, celle qui va fonder ce qu'on a appelé la musique tonale, qui va faire naître l'opéra, etc., où la musique va devenir désormais un langage. Donc la musique va quitter la sphère du calcul pour témoigner désormais de ce qu'on appelle, ce qu'on appellera plus tard l'expression, et donc devenir quelque chose qui parle, langage. Donc la musique va devenir langage, et bien entendu, langage des émotions. Là, on assistera donc à une dissociation radicale, très violente, hein, il faudra des siècles pour que la musique quitte les sciences, dissociation qui aboutira, bien sûr, le point culminant, c'est le romantisme, où là, la musique est toute entière bascule, n'est plus du tout du côté de la science, et donc du rationnel, mais bascule du côté de l'irrationnel. Le musicien, c'est avant tout celui qui fait parler son âme, fait vibrer ses émotions, et qui justement ne calcule pas, qui tient de l'intuition, etc., dans cette opposition qu'a construit la culture occidentale et qui perdure aujourd'hui, opposition entre rationnel, irrationnel, émotion et calcul. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que cette seconde vision, perdure encore aujourd'hui. Donc pour beaucoup, la musique est du côté de la spontanéité et de l'irrationnel. Mais les musiciens, eux, depuis déjà plus d'un siècle, donc depuis au moins les années 1910-1920, vont de nouveau se réacheminer vers le rapprochement entre la musique et les sciences. Donc là, c'est toute la musique dite contemporaine qui témoigne de cette histoire extraordinaire, qui est une histoire qui a un caractère utopique, violemment utopique, puisque la réalité sociale ne va pas dans ce sens aujourd'hui. Encore aujourd'hui, nous sommes totalement dissociés. Donc nous avons les collègues de l'UM2, les scientifiques. Moi, j'appartiens à l'UM3, donc les sciences humaines. Philippe également appartient aux sciences humaines. Et encore aujourd'hui, donc, tout ce qui relève de la musique, comme je le disais, n'a rien à voir avec le calcul. Donc ça a un caractère violemment utopique, avec une visée, donc l'espoir d'aboutir un jour à, pour le dire sous forme de provocation, un univers où les musiciens seraient pas simplement des cordes vibrantes, des âmes vibrantes, mais aussi des êtres intelligents. Parce que ça va de soi que la tradition qui a fait des musiciens des gens dotés du médium de l'expression, ça suppose aussi qu'ils ont un cerveau atrophié. Hein. Je continue, je provoque. Hein, j'ai dit que j'allais défendre les sciences. Hein, voilà. Voilà. Donc dans cette vision utopique, c'est évident que le musicien va faire travailler ses neurones, parfois même en atrophiant délibérément ses émotions. En règle générale, les émotions seront toujours là. Et c'est ce que peut-être je vais démontrer également, que la musique ne quittera pas les émotions. Mais l'intelligence deviendra une valeur centrale aussi importante que les émotions. Donc les musiciens militent pour le monde du futur, qui est déjà le nôtre, où c'est quand même aujourd'hui l'intelligence qui est la valeur centrale. Hein. Donc voilà, ils veulent rentrer dans ils veulent pas rester dans la frange, ils ne veulent pas être des SDF, voilà, simplement des gens qui vivent. Donc émotion et intelligence, combiner les deux, et puis utopie. D'autre part, il y a un facteur extrêmement important qui a contribué à cette histoire déjà vieille d'un siècle, à savoir que il y a la question de ce qu'on pourrait appeler l'inspiration, qu'on a abordé un peu tout à l'heure. Et donc, il s'est avéré que de plus en plus de musiciens, c'est un mouvement qui s'intensifie, commencent à trouver leur inspiration dans les sciences. Et il est vrai que lorsqu'on ouvre un livre de sciences, un livre sur la matière, de biologie, pour peu que ce soit un livre de vulgarisation tout de même, sans comprendre 100%, en ne comprenant que 2%, c'est d'une poésie extraordinairement intense. Tous les noms des particules, des microparticules, sont d'une poésie extraordinaire. Ça peut ouvrir un imaginaire fulgurant. Je cite un des musiciens qui a été pionnier de cette aventure, lequel justement témoigne du fait que c'est la science qui l'inspire, il n'y a rien à faire, Edgar Varèse. Edgar Varèse écrit en 1930... « Je trouve plus d'inspiration musicale dans la contemplation des étoiles, surtout à travers un télescope, ainsi que dans la haute poésie d'une démonstration mathématique que dans le récit le plus sublime des passions humaines. » C'est bien sûr un manifeste anti-romantique. 1930, on en a marre des romantiques et des passions. Voilà, il faut l'inscrire historiquement. Et d'autre part, il faut relever que quand il dit que je trouve plus d'inspiration à la contemplation des étoiles, il ajoute surtout à travers un télescope. Donc la technologie, là, aura son mot à dire. Utopie, inspiration. Et puis, en fin de compte, troisième élément qui sera déterminant pour cette aventure, c'est la pratique, c'est le savoir-faire. La musique qui est émotion, qui reflète le fait qu'il faut exprimer, etc. Eh bien, c'est une musique qui marche très bien avec ce qu'on a appelé la musique tonale, donc la musique qui naît justement avec l'opéra, comme j'ai dit tout à l'heure, vers 1600, laquelle musique est justement construite sur le modèle du langage. C'est pourquoi la tonalité naît en même temps que l'opéra, donc où il s'agit de communiquer un texte très clairement, que tout le monde le comprenne, avec ce qu'on a appelé la monodie accompagnée. Et le modèle musical de gens comme Monteverdi à l'époque, c'est justement le langage. Et on fait souvent le parallélisme entre une phrase musicale et la langue. On parle phrase musicale, on parle de syntaxe. Lorsque la tonalité meurt, pour la musique contemporaine, c'est déjà une vieille affaire, plus d'un siècle, eh bien, il faut trouver d'autres modèles de structurer sa musique. Et la science a pu fournir des tas de modèles intéressants. Théorie du chaos, tout ce que vous voulez d'autre. Je vais maintenant justement vous illustrer un tout petit peu ce qui a été dit à propos du XXe siècle avec trois petits extraits assez brefs pour donner matière à discussion. Tout d'abord, rendre un hommage à Varèse et témoigner également, j'ai parlé, mais un peu rapidement, du rôle des technologies. Dans le binôme art et science, musique et science, bien entendu, le médiateur essentiel va être la technologie. Chez certains musiciens, la science reste une chose abstraite,
uniquement l'inspiration, comme je disais, mais le plus souvent, elle se matérialise à travers l'informatique musicale ces 20 dernières années ou d'autres types de médias par le passé. Mais il y a quelque chose qu'on appelle technologie. Varèse, justement, est un musicien qui n'a pas employé de mathématiques, qui n'a pas employé de sciences à proprement parler dans sa musique. Philippe, spécialiste de Varèse, me corrigera peut-être tout à l'heure. Il a cherché, je crois, des formules mathématiques à une certaine époque. D'accord. Des règles, disons, strictes, et il ne l'a pas trouvé, je crois. Par contre, il a appelé toute sa vie aux technologies. Il s'est même arrêté de composer à une époque, pendant presque 10 ans, parce que, on peut le supposer, parce que il avait besoin d'un nouveau médium pour s'exprimer. Et donc, ça va être un des pionniers des nouvelles technologies, donc dans les années 50, de la musique sur bande, avec des sons enregistrés, quelques sons électroniques, et des transformations en studio. Donc, je vais vous faire écouter le début de son fameux poème électronique, 1958, une pièce assez minimaliste, qui témoigne des débuts de la musique électroacoustique, mais qui sonne encore merveilleusement bien aujourd'hui. Voici donc le début de poème électronique d'Edgar Varèse. Edgar Varèse, pièce qu'il est important de rappeler qu'elle a été diffusée lors de sa création à travers quelques 450 haut-parleurs dans le fameux pavillon Philips de l'exposition universelle de Bruxelles. C'était au départ, c'était une commande de Philips pour témoigner de la technologie du haut-parleur, et Varèse en est emparé pour un vrai projet artistique. Il y avait aussi un spectacle multimédia, donc c'était une pièce extraordinairement pionnière, vraiment 50 ans en avance, puisque l'art multimédia est encore dans ses balbutiements. Mon deuxième exemple, c'est d'un compositeur qui a été fils spirituel en quelque sorte de Varèse, c'est du compositeur Yannis Xenakis, lequel va intensifier très, très fortement la relation musique-science. Xenakis fut ingénieur à ses débuts, il a fait des études à l'école polytechnique d'Athènes, donc le calcul pour lui n'a aucun mystère. À la fin de sa vie, quand il était fatigué, parce qu'il était un peu malade, on voit dans ses manuscrits qu'il fait des calculs, voilà, juste pour se reposer. Donc c'est important de dire que pour lui, le calcul, c'est pas une manière de mystifier les gens, c'est un outil plus facile que les accords, par exemple, ou que les portées. Alors Xenakis aura des idées importantes, de génie, on peut dire. C'est un poète et il va faire des rapprochements extraordinaires. À un moment, il va dire, à l'époque où on faisait ce qu'on appelle de la musique sérielle, dans les années 50, musique très ponctuelle, avec des sons éclatés dans tout le registre, musique qu'on singe parfois en faisant n'importe quoi sur le piano, mais qui était extrêmement structurée. Le contraire d'une musique aléatoire, Xenakis va dire « Qu'est-ce que c'est que la musique sérielle ? Finalement, c'est une musique du hasard. » Et il se dit mais c'est une musique du hasard. Il dira ça, ce qui n'est pas vrai, justement. Et il dira « Mais puisque le résultat, c'est une musique du hasard, calculons, faisons vraiment une musique du hasard. Ne la faisons pas par hasard au hasard. » Et donc, il va faire une, une comparaison extraordinaire de génie. Vraiment, c'est là où je parle de métaphore et de poésie. Il va dire, prenons un son ponctuel. Par exemple, un son de pizz, de violon, guitare. Un son ponctuel de piano avec une attaque dont la durée est presque négligeable. Eh bien, comparons ce son à une molécule. Nous pouvons appliquer à la musique les théories que nous connaissons déjà depuis presque un siècle, Boltzmann, etc., des gaz, où nous savons que nous ne pouvons prévoir le mouvement des molécules que globalement, massivement, donc des millions de molécules, et nous pouvons prévoir que globalement leur direction, leur vitesse. Voilà. Donc il va dire, faisons la même chose, faisons une masse de sons et calculons les diverses valeurs, les hauteurs, etc., avec des probabilités. Je vais vous faire écouter le début d'une pièce instrumentale, donc ce n'est pas de la musique électroacoustique, il convient mieux de l'écouter sur scène par un orchestre, une pièce intitulée Pitopracta, 1955-56, dont le titre signifie « Action due aux probabilités ». Cette pièce commence par du bruit à l'état pur, produit par les instruments sur scène, les cordes, les instruments à cordes retournent, l'instrument et tape sur la caisse. Ce bruit est divisé spatialement, donc il faut penser que vous avez l'orchestre face à vous, 46 musiciens, et donc ça passe d'un pupitre à l'autre. Xenakis a calculé la densité de ces coups, il y a parfois densité nulle, parfois densité très intense, c'est déjà le début du granulaire, dont je parlerai peut-être plus tard si on a le temps. Puis, à partir de ce bruit, il va faire une évolution négantropique, c'est-à-dire du désordre vers l'ordre. Qu'est-ce que c'est que le bruit ? En termes acoustiques, c'est le désordre maximal. Il n'y a pas, c'est pas un son harmonique, donc c'est le désordre maximal. Et peu à peu, donc, vont arriver des sons à hauteur déterminée, donc l'ordre. Donc, première étape, des sons pizzicato, où on entend un peu la hauteur, mais ça reste bruiteux. Et puis après, des sons arco avec archer, où on entend les hauteurs. Au bout d'un instant, ce passage s'arrête vers les 2 minutes de cet extrait, et puis arrive ce passage fascinant de 25 secondes. 1500 sons pincés aux cordes, pizzicato, une masse calculée aux probabilités, et à l'époque fait à la main sur ordinateur. Il a dû passer ses nuits pendant plusieurs mois pour calculer les hauteurs, les pentes de glissando et les durées. Voici donc le début de Pitopracta de Yannis Xenakis pour orchestre. Thank you. Voilà, ça c'était un second exemple montrant que les musiciens peuvent trouver l'inspiration dans les sciences, cette fois-ci en prenant des théories mathématiques et les transférant en musique. Le problème essentiel de cette affaire-là, c'est bien sûr le mapping, c'est-à-dire à une équation mathématique, qu'est-ce que vous allez faire correspondre musicalement. Et ça peut ne pas marcher du tout, comme ça peut marcher, c'est-à-dire si le musicien réfléchit et trouve que ça répond à une question musicale, véritablement musicale. Donc là, en l'occurrence, la question véritablement musicale, c'est la masse de son. Et donc, Shenaki, ça a fait un mapping intéressant en calculant les hauteurs et autres. C'est pas simplement une équation mathématique transférée en musique, c'est ça que je voulais dire. Hein. Il y a un vrai bricolage, j'ai mis employé ce terme à la façon de Lévi-Strauss, pour que ça devienne musique. C'est pas une application mécanique. Troisième et dernier exemple, cette fois, pour ouvrir un autre chantier dont Philippe est également spécialiste, à savoir la psychoacoustique, voire les sciences cognitives. Donc, un des grands apports des sciences pour la musique, pour la musicologie également, bien sûr, c'est le fait qu'on a désormais de plus en plus de manières d'étudier la manière avec laquelle on entend et on perçoit. Ce qui par le passé, était beaucoup plus difficile. Par le passé, l'écoute, la perception, c'était justement l'émotion seulement. Aujourd'hui, on apprend que la frontière entre émotion, intelligence, justement, elle devient de plus en plus poreuse. C'est pas si simple que ça, il n'y a pas d'un côté des émotions et de l'autre une oreille. Hein, les musiciens vivent encore dans cet univers, le solfège c'est l'oreille absolue, c'est physique, voilà. Et puis après, les émotions viennent dans un autre temps, dans une autre vie peut-être. Donc tout ça est en train de bien se remuer et il y a certains des musiciens qui ont trouvé beaucoup d'inspiration dans les développements de la psychoacoustique. Là, je vais me référer à ce qu'on a appelé fin des années 70 la musique spectrale. Un grand courant de musiciens français qui a un peu essaimé dans le monde et qui continue à être très vivant. Là, on a une deuxième, voire une troisième génération de compositeurs de musique spectrale. Pour aller vite, donc, ces musiciens sont partis du spectre d'un son, tout simplement, et puis ont cherché à voir comment justement fonctionnait le cerveau pour essayer de simuler et créer leur idée. Leur idée, c'était de créer une musique naturelle. Une musique, le grand problème de la musique contemporaine de toujours, et encore peut-être plus à l'époque, c'était que ça ne sonne pas bien, les gens ne l'aiment pas, ça ne sonne pas naturel, ça sonne arbitraire, décousu. Et donc, ils avaient cette idée de faire une musique qui sonne agréablement, alors agréablement, non, là j'exagère, naturellement, serait le terme. Et donc, ils se sont dit, bah, prenons justement, voyons comment le cerveau entend. Par exemple, une chose très simple, c'est d'appliquer au rythme des progressions de type géométrique, donc avec une accélération, donc du type rebondissement du bal de ping-pong. Si vous faites ce rythme, c'est très naturel. Voilà, ça marche parce que tout le monde l'entend dans sa vie, tous les jours, plusieurs fois. Un des grands pionniers de la musique spectrale fut Gérard Griset, mort prématurément, il y a déjà une bonne dizaine d'années, et qui a lancé un extraordinaire manifeste, les espaces acoustiques, une tétralogie, quatre pièces qui s'emboîtent. Vous allez écouter la pièce la plus célèbre de ces tétralogies, qui a un titre très acousticien, Partiel. Qu'est-ce que c'est qu'un partiel? On va peut-être l'expliquer tout à l'heure, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc c'est une pièce basée sur le spectre, et qui essaye de simuler la manière avec laquelle l'oreille synthétise un son. C'est assez simple, on pourra expliquer après comment ça marche, c'est vraiment pas compliqué. On va écouter au moins 3 minutes de cet extrait, pour que vous rentriez vraiment dans cette logique d'une musique qui se veut un peu naturelle. Si on écoute un extrait trop bref, ça, on rentre pas dedans. Voici donc le début de Partiel de Gérard Griset. Thank you. C'est un peu dommage de couper en plein milieu. C'est une pièce orchestrale. Là aussi, il convient de l'écouter à l'orchestre. Ça dégage un son extraordinaire. C'est une musique pleine d'énergie. Voilà, j'espère avoir lancé quelques pistes. Il y aurait beaucoup, beaucoup d'autres pistes à ouvrir, d'autres débats à engager.
Merci à toi, Makis, pour cette remise à niveau et ces séances d'écoute. La première chose, peut-être, j'aimerais demander qu'est-ce qui est passé. Et au niveau de la présentation générale, je ne sais pas, vous avez des réactions. Sinon, on va demander ici. Je vois que Frédéric Jeunier a une... Attends, je vais lui passer le micro. Voilà, donc Frédéric Jeunier avait des commentaires.
Quelques remarques à apporter à ce qu'a dit Makis. La première chose, c'est que ça me rappelle un peu ma mère quand elle disait « toi t'es scientifique, toi t'es littéraire ». Je trouve cette division un peu schématique et aussi un peu stérile. Alors j'ai quelques remarques, je vais essayer de faire quelques remarques qui traduisent mon sentiment sur ce qui a été dit. D'abord, la musique de Pythagore et les pythagoriciens doivent essentiellement leur savoir à ce qui s'est passé en Égypte quelques siècles avant encore. Donc c'est quand même pas très correct de dire que c'est eux qui ont inventé les mathématiques, on va dire, pour le moins, et ni la musique, ni le rapport entre les deux. D'accord, ça remonte à un peu avant. Ensuite, j'aurais tendance à dire que d'abord, ce qui nous a été présenté est une approche extrêmement européenne. Enfin, une approche de la musique extrêmement... bon, c'est normal, on baigne dans une culture, mais c'est l'approche européenne de la musique. Il faut savoir qu'il y a plein d'autres musiques, enfin, maintenant on les découvre de plus en plus avec les musiques du monde, qui ne pensent pas les choses de cette manière-là. Je vais y revenir tout à l'heure. Le troisième point, c'est que je dirais que les liens entre les mathématiques et la musique, à mon sens, n'ont jamais cessé d'être. Il y a eu une parenthèse qui n'est pas uniquement une parenthèse en musique, qui est une parenthèse dans tous les arts et toute la culture, qui est la parenthèse du romantisme, qu'on retrouve en littérature, qu'on retrouve en peinture, qu'on retrouve en musique, et dans lequel, effectivement, l'artiste est forcément quelqu'un qui est tout à fait à part, qui n'est pas dans la société, qui est fou, qui a la syphilis, et un certain nombre de choses comme ça. Et c'est une parenthèse qui dure à peu près un siècle, mais c'est assez significatif de savoir que Chopin, qui est le parangon de l'artiste romantique, ne se considère absolument pas comme un romantique. Pas du tout. D'accord ? Et ensuite, alors effectivement, avec Varèse, ça reprend, mais même avant, Stravinsky est déjà quelqu'un qui revendique la non-émotion et la construction, mais Bach aussi. Donc finalement, la parenthèse n'a pas duré très très longtemps, en réalité. Et on retrouve dans toute la musique des aspects combinatoires, mathématiques, qui n'ont jamais, jamais cessé d'être. Et je pense que cette opposition de dire que maintenant, les musiciens veulent revendiquer l'aspect intellectuel, quand est-ce qu'ils ont cessé de le revendiquer ou de l'avoir ? À quel moment ? J'aimerais qu'on soit dans une période où ça s'est arrêté, on veut dire. Alors, ce que je voulais dire aussi, alors à propos des extraits, bon, ça c'est mon ressenti et ça rejoint un peu ce que je voulais dire sur les cultures. On a l'impression que c'est des approches qui ont surtout travaillé l'aspect, alors je ne vais pas dire tonal évidemment, mais l'aspect timbral, c'est-à-dire la substance même de la musique. Mais il y a une chose extrêmement simple dans tout ce que moi j'ai entendu, c'est qu'il y a des rythmes extrêmement simples, des structures rythmiques qui sont absolument transparentes. On peut chaque fois taper et compter un rythme dans chacun des extraits. En tout cas, ils sont très discernables. Et c'est un des aspects que... C'est en ce sens que je parlais d'une approche très européenne. On se centre sur le timbre du son, de quoi est fait le son, et on a tendance à oublier la composante rythmique, la composante qui, par exemple, est fondamentale en musique indienne, en musique africaine, en musique, etc. etc., etc. Voilà, c'était les quelques remarques... que je voulais dire provisoirement.
Une réaction peut-être ? Je repasse de l'autre côté, dans l'autre hémisphère.
Alors, je voulais donc juste,
Philippe Lalitte.
Dire deux choses. Je pense qu'il y a quand même une différence. Effectivement, les relations entre mathématiques entre sciences et musique n'ont jamais cessé, c'est vrai. Mais quand même, au XXe siècle, il y a une revendication qui est très forte de la part des compositeurs. Parce que ces relations science-musique à l'époque baroque ou avant, à l'époque de la Renaissance, elles étaient présentes, mais c'était quand même seulement les théoriciens, c'est-à-dire très très peu de gens. Les praticiens de la musique ne connaissaient absolument rien de tout ça. Hein, ils se contentaient de pratiquer la musique. Donc, ce qui se passe quand même à partir du XXe siècle, et surtout à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est qu'il y a vraiment une revendication. Et pas seulement une revendication, il y a aussi un travail en commun qui va se faire. Varèse, encore lui, commence dès les années 30, il va voir Harvey Fletcher. Hein, il essaie de monter un laboratoire où il y aurait des musiciens et des scientifiques qui travaillent ensemble. Et finalement, évidemment, il n'a pas réussi à monter ce projet, c'était beaucoup trop tôt. Donc il a fallu attendre 1974 pour voir l'IRCAM en France, donc qui est l'Institut de recherche de coordination acoustique musique, où, fondé par Pierre Boulez, où on a à la fois des scientifiques et des compositeurs, des musiciens, des psychologues, des musicologues, enfin voilà, tout un ensemble de gens qui travaillent ensemble. Et ça, c'est quand même, je pense, quelque chose qui est spécifique au XXe siècle.
Une réaction de la salle, peut-être ? Monsieur, allez-y.
Oui, on est un petit peu étonné d'entendre que c'est l'IRCAM qui a refondé ça. Il y a quand même eu Schaeffer, il y a quand même eu Stockhausen en Allemagne. Il y a eu, je sais pas, enfin, Messiaen avec les rythmes non rétrogradables qui a fait un grand travail de calcul et sur les rythmes aussi. Je n'ai pas le sentiment que ça soit aussi net que ça, l'IRCAM. C'est l'arrivée de l'informatique dans la musique. C'est certainement pas l'arrivée du calcul ou de la science dans la musique.
Non, c'est l'arrivée de la collaboration entre compositeurs et scientifiques. Chez Fern, il n'y avait pas du tout de scientifique.
Qui travaillait lui-même, hein. Lui-même l'était quand même.
Non, alors là, je vais démythifier un petit peu.
On parlait de polytechnicien, il l'était aussi.
Oui, non, d'accord, mais si vous voulez... Vous connaissez le traité des objets musicaux, la façon dont il a été écrit. Maintenant, on sait comment il a écrit. Hein. Il avait 5 assistants qui faisaient des fiches de lecture pour lui. Et donc, il a utilisé toutes ces fiches, ces gens qui ont travaillé pour lui pendant des années. Et il a rédigé ensuite son... Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une collaboration. Ce n'est pas une vraie collaboration. Hein. Non, je crois quand même que c'est reconnu que c'est vraiment à partir de l'IRCAM qui a vraiment une institution où il y a pas de compositeur.
Enfin, je sais pas, j'ai des disques produits à l'époque. Enfin, c'était, je sais pas si c'était pas des compositeurs, mais enfin, ils fabriquaient de la musique quand même, ces gens. Donc,
non, là où on peut trouver une origine peut-être, bon. c'est au laboratoire de la compagnie Bell Telephone, hein, au Bell Labs. Mmh. Effectivement, là, il y avait des gens qui étaient Barissé, par exemple, hein, qui travaillaient. Donc, il était musicien et scientifique, et il y avait effectivement une collaboration, oui.
Par rapport à Varèse, si je peux me permettre une petite incidente, c'est la crise de 1929 qui a fait que justement la Bell Company a renoncé à ce projet à l'époque. C'est pas l'impossibilité de le faire.
Oui, il n'avait pas eu de bourse en fait.
Il n'y a plus d'argent.
Je voudrais aussi préciser que c'est très difficile de comparer ce qui se passe au XXe siècle et ce qui se passe au XVIIIe siècle, parce que si on compare, disons, les scientifiques du XXe siècle avec ceux du XVIIIe siècle, on va être très embêté en réalité, parce que ça n'a pas du tout la même structure, c'est pas les mêmes gens. Donc, et bon, malgré tout, au XXe siècle, d'accord, s'il y a plus de monde, parce qu'on est plus nombreux sur Terre, mais c'est quand même pas une grande majorité des musiciens. Et bon, pour citer un contre-exemple célèbre au XVIIIe siècle, on va évidemment mettre la tarte à la crème, Bach en français, excusez-moi, qui est un compositeur, on ne peut plus mathématiser, et qui le faisait tout à fait consciemment.
Oui, mais pour répondre à la provocation, Bach, il va jusqu'au chiffre 24. Et à l'époque, les mathématiques, les intégrales existaient déjà. Xenakis emploie des probabilités, le retard n'est plus que d'un siècle, et il y a des musiciens qui carrément emploient, c'est une tarte à la crème, mais des fractales ou la théorie du chaos. Donc, Bach, en fait, c'est encore Pythagore. Hein, on reste à cette idée que la musique est calcul, mais petit calcul. Hein, petit calcul où on n'a pas besoin vraiment de connaître les mathématiques. Ce que veut dire Philippe, c'est que désormais, l'idéal est d'aboutir à un être unifié, où les deux hémisphères ne sont pas séparés. Et donc, on commence par une collaboration éventuellement avec des assistants. Voilà. Alors que Bach, d'ailleurs, bon, peu de gens savent qu'il y a ce genre de calcul, et sa musique, c'est pas si important que ça. C'est un peu comme chez Berg, les séries qui renvoient à la femme bien-aimée, c'est la petite cuisine, quoi. Ou alors, c'est des ésotérismes qui renvoient à la religion, ce qui est notre affaire, quoi.
Mais dans ce cas-là, en musique contemporaine, est-ce que c'est vraiment la chose importante de savoir que ça a été fabriqué sur des fractales ? Alors d'abord, je voudrais dire, il n'y a pas pour moi de petite théorie du chiffre 24 ou quoi, parce que l'arithmétique est une théorie largement aussi compliquée que la théorie des fractales, première chose, ou la théorie des probabilités. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, d'accord, il y a un petit motif, une petite motivation initiale dans la composition, mais excusez, pour tout compositeur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, ce qu'il faut, c'est se donner à la fois des contraintes et des sources d'inspiration, et après, les bons compositeurs font avec ça des choses intéressantes, et l'histoire fait le tri.
Je vois Philippe qui saisit son
micro. Non, mais au XVIIe, au XVIIIe siècle, les compositeurs composaient, si je puis dire, pour composer, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils gagnent de l'argent, il fallait qu'ils produisent des cantates, qu'ils produisent des œuvres. Point final. Et bon, c'est vrai, Bach, d'accord, bon, c'est une exception, finalement. Donc il y a quand même pas, enfin, il me semble, autant de relations, en tout cas autant de relations explicites et de collaborations étroites comme on peut le voir aujourd'hui quand même. C'est tout, voilà. Sans nier qu'il y ait vraiment ces relations. Bien sûr, elles existent de tout temps, ça je suis tout à fait d'accord.
Ouais, on voudrait réagir, Richard, tu voulais réagir tout à l'heure.
Non, je voulais juste, en quelques mots, hein, renchérir sur l'aspect arithmétique et la pente pythagoricienne, etc. Il me semble que on a retrouvé dans des tablettes égyptiennes qui datent, je crois, du Moyen Empire égyptien, des documents gravés, faisant état de la connaissance du cycle des quintes qu'on attribue généralement à Pythagore. Et bon, il n'y avait peut-être pas explicitement le coma pythagoricien, mais enfin, il y avait l'approximation du cycle des quintes et puis des 7 octaves, quoi, des 12 quintes et des 7 octaves. Donc ça, c'est attesté par des tablettes, dont je ne me souviens plus le numéro, puisqu'elles sont numérotées. Donc. Et puis, pour la collaboration entre les scientifiques et puis les musiciens, ben, je rappelle quand même que Jean-Sébastien Bach, et puis son clavier bien tempéré, ça a été aussi une collaboration avec des musicologues comme Werkmeister, qui a fait aussi des calculs un petit peu mathématiques, un petit peu arithmétiques, l'arithmétique étant une branche fort importante des mathématiques et la plus compliquée sans doute, et a abouti à des gammes de tempérament plus ou moins égal, et puis qui a abouti donc au fameux clavier bien tempéré qu'avait utilisé Jean-Sébastien Bach. Et puis on pourrait citer aussi toute la partie de la Renaissance, où il y a des gens comme Rameau, qui ont travaillé sur tout un tas de gammes, des tempéraments, voilà, qui ont inventé une kyrielle de gammes avec des tempéraments différents, et ces gens-là ont composé. Donc moi j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu de rupture de lien entre science et musique au cours des siècles. Bien sûr, bon, il y a peut-être eu des hauts et des bas, mais je pense qu'il y a toujours eu cette collaboration et cette unité.
Philippe Lalisse voulait rajouter quelque chose, vas-y.
Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord aussi, il n'y a pas eu de rupture, hein. On est bien d'accord là-dessus. Simplement, peut-être aussi, ce qui change au XXe siècle, c'est que avant le XXe siècle, ce qui touchait les sciences et la musique, ça touchait l'acoustique, ça touchait le tempérament, donc la façon d'accorder les instruments, les problèmes de consonance, ces choses-là. Au XXe siècle, on s'intéresse aussi à des théories qui n'ont rien à voir avec la musique, hein, et qui deviennent des sources d'inspiration. Hein, par exemple, la quatrième dimension, Henri Poincaré, la science et l'hypothèse, ça va être un formidable appel d'air pour non seulement les musiciens, mais aussi les artistes. Le cubisme, en fait, vient de ça, de ce livre-là, hein, qui a passionné Glaise, qui a passionné Picasso, etc. Delaunay, le simultanéisme, en fait, vient de ça. Et Varèse, encore lui, ami de Delaunay, donc va aussi penser la musique comme un ensemble de projections sonores avec différents plans, et c'est le début des musiques qui ne sont plus seulement successives, si vous voulez, mais qu'on peut stratifier, voilà, qu'on peut stratifier sur différents plans. Et qui va donner évidemment la spatialisation un peu plus tard, ce qui va donner avec la musique électroacoustique, avec les haut-parleurs, la possibilité de diffuser le son, de le projeter par des différents haut-parleurs, comme le poème électronique sera projeté par 450 haut-parleurs en 1958.
On a parlé de tempérament. Nous avons une transition toute trouvée. Didier peut nous en parler. Écoute, donc voilà, nous avons Monsieur Tempérament parmi nous, en fait, qui s'appelle Didier Achour. C'est toi qui va peut-être nous parler du tempérament. Hein, voilà, comme tu veux.
Bonsoir. Oui, j'en profite, comme on parle du tempérament, je dois jouer une pièce justement en 16e de ton, donc je me suis dit que c'était le bon moment pour la placer. peut-être quelqu'un veut introduire un petit peu la notion de tempérament en musique, et moi je préciserai le temps que je sorte ma guitare de l'étui, que je me prépare et je donne des indications après sur la pièce. Et...
Donc le tempérament, pour faire simple et probablement pas très exact, c'est un vieux problème qui consiste... Bon, depuis Pythagore, en gros, on a construit des gammes, donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, depuis les Égyptiens, voilà. On a construit... En fait, les Chinois aussi. Hein. Alors, c'est d'ailleurs une question très intéressante de se poser la question, pourquoi 7, pourquoi 12, pourquoi 41, je crois, après. Et en fait, on trouve des réponses dans l'arithmétique. Donc, c'est déjà en soi une chose très intéressante. Donc, à un moment donné, on dégage une structure qui est, en gros, en Occident, notre gamme majeure, qui fonctionne depuis... assez longtemps maintenant déjà, et donc ça permet de jouer dans une tonalité, et on a donc des instruments qui sont tous faits pour jouer dans une tonalité, qui sont accordés avec un choix restreint dans toutes ces notes là en fait. Et puis à ce moment là on s'aperçoit qu'on peut aussi jouer dans d'autres tonalités, donc do majeur ou ré majeur ou sol majeur, etc. Et se pose la question d'essayer de trouver un instrument qui permettrait de jouer dans ces différentes tonalités successivement, mais sur le même instrument. Et la contrainte qui apparaît à ce moment-là, c'est justement la question du tempérament. Comment faire qu'un instrument qui sonne correctement dans une tonalité ne sonne pas horriblement faux dans une autre ? Et les solutions trouvées à ça, c'est ce qu'on appelle le tempérament. Et il y a plusieurs solutions.
Donc ouais, ces histoires de tempérament jalonnent justement toute l'histoire de la musique et reflètent souvent des choix comme ça d'écriture de la musique, enfin de fondement en tout cas d'une musique. Et c'est vrai qu'au début du XXe siècle, il y a un courant comme ça, un peu marginal mais important, qui s'est intéressé à découper l'octave en vraiment toutes petites parties. Et donc ça remonte à vraiment au tout début du siècle, un compositeur mexicain qui s'appelle Julian Carrillo, un compositeur tchèque aussi, Alois Abba, Vishnegradsky en Russie puis en France, se sont intéressés donc d'abord au quart de ton, enfin au tiers de ton d'abord, ensuite au quart, au huitième, au douzième, au seizième, jusqu'au seizième de ton. Et moi j'ai rencontré une compositrice qui s'intéressait à ces compositeurs-là et qui écrivait en micro-intervalle. Et moi, je m'intéressais aussi aux expériences sur la guitare, donc j'ai conçu un système pour accorder une guitare en 16e de ton. Alors peut-être, voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus, si ce n'est que peut-être vous faire entendre l'accord de la guitare. Donc évidemment, le principe, en fait, comme évidemment on ne peut pas découper les cases en 96 par octave, parce que c'est 96 notes par octave, le 16e de ton, j'ai trouvé un compromis en frettant la guitare en quart de ton, donc il y a quand même le double de fret, et après un accord un peu radical aussi, donc en utilisant 6 fois la même corde, mais accordée microtonalement. Donc, je vous fais juste un petit extrait de gamme en 16e de ton. Donc par exemple, je passe d'un, je vais monter d'un demi-ton d'abord. Voilà, donc j'ai placé 4 notes à l'intérieur avant d'arriver au demi-ton suivant. Si je fais un ton, voilà. Donc bon, la pièce tire parti évidemment des spécificités de la guitare accordée ainsi. Bon, je vais la jouer, je crois que c'est plus. Thank you.
On est un peu, je l'avoue, sorti d'un bar des sciences tout à fait classique, en fait. Hein, c'est une expérimentation qu'on est en train de mettre en place. Mais ce qu'on va faire, c'est que vous vous installez confortablement. On va baisser un tout petit peu les lumières, d'accord? Et ensuite, Didier va nous faire une...
Alors, quand on m'a demandé un programme pour musique et sciences, donc il y avait la pièce de Pascal Criton qui est venue comme ça à l'esprit pour les histoires de tempérament. Et puis j'ai pensé aussi à un compositeur que j'aime beaucoup qui s'appelle James Tenney, qui était proche de John Cage justement, qui est mort il y a 2-3 ans maintenant, et qui s'est intéressé lui plutôt à l'intonation juste, à l'acoustique, à la série des harmoniques naturelles. Et il a quasiment écrit toutes ses pièces en se basant sur cette série des harmoniques naturelles. Alors, au tout début, on a parlé de Pythagore, ça vient de là. C'est que des intervalles qui sont des multiples entiers d'une fréquence fondamentale. Donc là, ce que je vais jouer, c'est en fait presque... Enfin, c'est exclusivement des partiels, des harmoniques, donc d'une fondamentale. C'est presque une installation sonore. Il n'y a aucune rhétorique musicale. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas de rythme. Je vous préviens tout de suite. C'est voulu, c'est un peu voulu. Enfin, c'est voulu dans le sens où voilà, on peut se concentrer uniquement sur comment sonne l'objet sonore qui va être comme... inscrit dans l'espace différemment selon les fréquences que je vais accumuler en direct. Voilà.
Le Bar des Sciences est organisé par l'espace Sciences Culture de l'Université Montpellier 2 en collaboration avec
la délégation régionale à la recherche et à la technologie,
le CNRS,
l'INRA,
l'INSERM,
l'IRD, la Maison des Sciences de l'Homme de Montpellier.
En partenariat avec le pôle universitaire européen de Montpellier, Radio Aviva,
Divergence FM,
la Brasserie de l'Éden.
Programme résumé, enregistrement audio disponible sur le site www.bds.univ-montp2.fr.
www.bds.univ-montp2.fr.
Le Bar des Sciences.